les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir, c'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Quelle est la bande-son de votre souvenir vintage? Un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Ce soir, l'élucubration parle d'OVNI avec Egon Kragel qui doit être en ligne avec nous. Egon?
Hello.
Hello, il est là, tout va bien. Qui vient de publier chez Très Daniel, OVNI et Pop Culture, des rockstars, des personnalités, ils ont vu, ils témoignent. Chers auditeurs, vous pouvez dès à présent et tout au long de l'élucubration contacter le standard de Radio U pour témoigner, partager, réagir au 02 98 03 62 82 61. On y va. Et pour commencer, et pour vous mettre un peu dans l'ambiance, un jingle qui va vous rappeler, à mon avis, plein de souvenirs. Ce soir, ce ne sont pas que mes souvenirs vintage, ce sont les vôtres. Thank you. Et oui, vous l'aurez sans doute reconnu, le générique de E.T. l'extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg. Ah, j'ai un trou. Par Spielberg en 1982 et Rencontre du troisième type, dont on parlera également dans quelques instants, en 1977. Alors, une fois n'est pas coutume, cher Egon, tu es toujours là, j'imagine.
J'écoute un beau générique totalement épique qui nous propulse à l'étoile.
Mais oui, c'est instantané. Je crois que personne n'y résiste. Alors, pourquoi ce générique? Alors, j'avais choisi au départ un autre souvenir vintage et puis finalement, ce sera E.T. Parce que aujourd'hui, je suis allée voir Disclosure Day de Steven Spielberg, qui m'a beaucoup émue. Et j'y ai retrouvé... D'abord, j'ai cru voir E.T. J'y ai retrouvé plein de petits gimmicks, de petites astuces. Je crois qu'il s'est amusé à les intégrer dans ce film qui boucle un peu la boucle de son, peut-être de sa période OVNI, extraterrestre. Mais j'y ai vu un E.T., j'y ai vu le rassemblement devant la soucoupe volante dans Rencontre du troisième type. J'y ai vu cette histoire de communiquer avec des extraterrestres ou des ovnis. Alors là, c'est par le biais d'une langue basée sur des mathématiques. Dans Rencontre du troisième type, c'est sur des tonalités, enfin de la musique. Il y a des dates. Hein. Alors moi, en lisant ton livre, donc je rappelle ton livre, paru aux éditions Très Daniel, OVNI et Pop Culture, donc c'est ton cinquième livre, cher Egon, par le prisme artistique cette fois-ci. Et en le lisant, moi j'avais relevé des dénominateurs communs. Et alors, la vitesse foudroyante des ovnis, le fait de le vouloir très fort, un vœu pieux, mais pas tant que ça, pour voir des ovnis, et finalement le vœu est systématiquement réalisé, en tout cas par les artistes qui témoignent dans ton livre. Et surtout une période, tous décrivent en 1974 avoir vu des ovnis. Et c'est repris également dans Disclosure Day, finalement cette date, enfin 73-74. Alors est-ce qu'on peut tirer des généralités de ça ou une vérité?
On peut juste se rendre compte que effectivement ce phénomène s'est manifesté au long de l'histoire contemporaine partout, parce qu'on appelle des vagues. Vague, c'est la traduction française du terme aux États-Unis. On sait qu'il y a des périodes comme ça où il y a une grande passion et parfois dans des lieux très. Aux États-Unis,
Alors, Egon, attends, je me permets de te couper parce qu'on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu aurais ton portable allumé à côté de toi ou... Ah bah, enfin, tu parles... Tu es sur ton portable, en fait. Alors, une radio ou quelque chose qui fait...
Non, je ne suis que sur mon portable.
Ou alors, peut-être, faudrait que tu enlèves le haut-parleur si tu parles avec le haut-parleur.
Mais si je parle, je ne vais plus t'entendre, je crois.
Bah, ouais, enfin, à l'oreille, non. C'est pas pratique. Bon, ben...
Est-ce que tu entends mieux là?
Oui, carrément.
Bon ben écoute, je ne bouge plus.
Voilà, c'est parfait. Donc on en était aux dates, aux généralités éventuelles que l'on pouvait tirer.
Visiblement ce phénomène se manifeste par vagues, on appelle ça des vagues. La première dont on a conscience s'est passée en 1947. Nous en France on a connu une énorme vague en 1954 par exemple, entre septembre et novembre 54. Il y a ce qu'on appelle la vague de 69 qui a été un peu partout sur la planète et puis effectivement, il y a les vagues des années 70. Ça commence en 73 avec une observation au-dessus de l'aéroport de Turin. Et 74, 75, voilà, on peut dire que c'était un âge d'or comme ça. Et puis concernant les ovnis, parce qu'aussi on parlait de façon extrêmement décontractée et partout. Il y a eu la vague belge après en 89-91. Enfin voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on ne peut que le constater. Visiblement, ce phénomène se manifeste de la sorte.
Alors dans son film, bon, on va continuer son film parce qu'il y a une anecdote dont je voudrais que tu parles par rapport à Rencontre du troisième type en particulier, mais on va dérouler du coup un peu Spielberg. Il parle d'empathie. Ce serait la caractéristique des extraterrestres et ce pourquoi on a peut-être du mal... Alors, en voyant le film, évidemment, sans spoiler, mais je me suis aperçue que bah, c'est aussi une diatribe et peut-être un pamphlet sur le pouvoir, la domination des institutions, le mal qu'on peut faire aux animaux comme aux extraterrestres pour essayer d'en faire des rats de laboratoire, comme on dit, pour essayer de comprendre comment leur cerveau fonctionne, à quoi ils réagissent par rapport à l'homme.
Bon, on peut dire que de toute façon, c'est le credo de Spielberg depuis très longtemps. Parce que bon, on a commencé l'émission avec E.T. E.T., il y a vraiment les méchants du gouvernement qui tentent de capturer E.T. Pour le transformer en animal de laboratoire. Donc, heureusement, il a un allié, un petit garçon le rencontre, le défendre. Mais on retrouve ça aussi en filigrane dans Rencontre du troisième type. On retrouve ça dans La guerre des mondes. Enfin, c'est un peu... Je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, visiblement, Spielberg, vraiment.
Alors du coup, les extraterrestres permettraient de retrouver notre humanité, notre empathie, le respect les uns les autres, quelque chose d'un peu chrétien. Alors ça aussi, ça revient à la religion. Alors carrément, il fait une référence. Alors j'ai regardé moi tout à l'heure dans ma Bible, j'ai essayé de vérifier ça, il fait une référence à la Genèse. À un moment donné, il y a un échange entre deux personnages du film dans lequel une jeune femme dit « Nous sommes sa création suprême à Dieu » et une nonne chez qui elle trouve refuge dans le film, on ne va pas tout spoiler, lui répond « Sur Terre, c'est ce qui est écrit dans la Genèse, mais pas dans tout l'univers. » Alors, dans la Genèse, moi, j'ai rien trouvé. En revanche... Bon, j'ai voulu explorer un peu davantage et je me suis dit, mais tiens, Daniel, il y a le livre de Daniel dans la Bible, Daniel annonce l'Apocalypse. Et alors là, dans le livre de Daniel, j'ai trouvé en 2.28 et 2.29 surtout, « Ô roi, sur ton lit, des pensées ont surgi à ton esprit au sujet de ce qui arrivera par la suite. Ce qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. » Alors, c'est clairement, c'est ça en fait le sujet. Il faut être mûr, mature pour pouvoir accepter la rencontre avec les extraterrestres qui vont nous révéler.
De façon, ce que l'on peut dire vraiment de façon factuelle, hein, même si ça peut surprendre, c'est que ces livres fondateurs, on va parler de l'Ancien Testament, il est question de créatures extraterrestres, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire extraterrestre ? C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur la Terre. On nous parle d'anges, de légions d'anges. D'ailleurs, ils vont même descendre du ciel. Ils vont trouver dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres, ils vont trouver les terriens à leur goût. Ils vont s'unir à elles et créer des races de géants. C'est écrit dans la Bible. Donc, ce sont des créatures extraterrestres. Le Christ lui-même passe son temps à dire « Mon royaume n'est pas de ce monde, je retournerai à la droite de mon Père, là-haut, etc. » Donc, il semble lui-même dire « Je ne suis pas de ce monde, donc je suis extraterrestre. » Parce que c'est ça, je crois qu'il faut revenir vraiment à la définition des termes. L'églissement sémantique, c'est comme OVNI. OVNI, quand on parle d'OVNI, les gens voient une soucoupe volante avec des petits personnages verts ayant des tentacules. Non, OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. On a vu quelque chose dans le ciel, on ne sait pas ce que c'est. Extraterrestre, ça veut dire qui ne vit pas sur cette boule bleue magnifique qui est notre planète. Et dans la Bible, il y a plein d'histoires extraterrestres. Hein. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel raconte que d'un seul coup, il voit quelque chose d'étrange qui est illuminé et qui va l'amener dans le ciel, voir autre chose. Donc, c'est une sorte de transport extraterrestre. Ce qui fait que c'était pas très étonnant, mais au fond, toutes les spiritualités autour du monde nous parlent de ça. En Inde, les dieux sont arrivés à bord de machines qu'on appelait Vimanas, qui sont des sortes de plateaux de métal. C'est intéressant. Je passais beaucoup de temps en Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, les dieux qui ont enseigné aux hommes l'architecture, l'agriculture, viennent du ciel. J'ai passé du temps en Bolivie, par exemple, et on nous parle de Viracocha. Viracocha, beaucoup d'Indiens, nos frères indiens de l'Altiplano, nous parlent de Viracocha. Viracocha est descendu du ciel un jour, et voilà, amené aux hommes. Et puis on attend très souvent le retour. Donc, c'est quelque chose qui imprègne profondément nos spiritualités. Pourquoi il semblerait que des choses viennent de là-haut, hein, et interagissent avec nous. C'est un grand mystère. On peut, quoi qu'il en soit, voir une modélisation et trouver des choses communes dans beaucoup, beaucoup de spiritualités.
Alors, on va revenir sur ton parcours qui est fascinant. Et tu es vraiment un puits de culture hyper intéressant. C'est passionnant à chaque fois de discuter avec toi. Mais avant, une petite transition, tu vas voir. Moi, je vois toujours des choses assez spéciales. J'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire, puisqu'on en est sur Steven Spielberg. Alors, en lisant ton livre, j'ai appris que pour Rencontre du troisième type, on écoutera l'extrait, le jingle, juste après. Pour Rencontre du troisième type, il avait d'abord pensé à Steve McQueen, qui a refusé parce qu'il était incapable de pleurer devant une caméra.
Absolument, tout à fait.
Il y a plein d'anecdotes, hein, chers auditeurs. Vraiment, je rappelle, OVNI et Pop Culture, aux éditions Très Daniel, il y a plein d'anecdotes fascinantes et qu'on ignore pour la plupart. Donc, c'est finalement Richard Dreyfuss qui le choisit.
Un acteur... Qui est excellent. C'est un très bon choix. Je trouve que c'est un choix excellent. Dreyfuss est absolument magnifique dans ce rôle-là, vraiment.
Oh ben, tous, en plus, à l'époque, enfin... En 77.
Et alors, je trouve que Dreyfuss a amené une pointe de poésie réelle. J'adore Steve McQueen, absolument, mais bon, Steve McQueen avait un côté peut-être un peu plus anguleux, un peu plus rude.
Un peu moins sensible, peut-être.
Enfin, oui, c'est ça.
Parce que, clairement, Richard Dreyfuss, un acteur convaincu, alors c'est écrit dans le livre, donc un acteur convaincu que des formes de vie existent ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut quand même. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est les ovnis ou les extraterrestres ou je sais pas quelqu'un de supérieur qui choisit quoi. Parce que par exemple, cette émission, on a mis du temps, on a galéré avant de finalement réussir à la conduire. Et aujourd'hui, ce jour de la musique, le jour où je vois Disclosure Day, où je fais plein de parallèles, où je change complètement mon script, ça fonctionne. Et je me suis dit ça cet après-midi, comme si je n'avais pas tous les éléments pour conduire l'interview ou je sais pas.
Ah, qui sait ? Il y a peut-être des choses au-dessus de nous que nous ne voyons pas et des doigts qui nous poussent vers des réalisations qu'on ne soupçonnait pas. Et de toute façon, le mystère reste entier. Il ne faut pas oublier, Isabelle, qu'on vit dans un monde merveilleux. Tout est merveilleux autour de nous. On l'oublie souvent en devenant adulte. C'est-à-dire qu'on finit par considérer notre monde comme une évidence, pire, comme une habitude, alors que quand on est enfant, on regarde le monde de façon absolument émerveillée tout le temps. Et je dis ça à raison, parce qu'au fond, c'est le regard que pose tout le temps, si tu regardes bien, c'est le regard que pose tout le temps Spielberg dans ses films.
Mais...
C'est toujours le regard d'enfant. C'est-à-dire que Spielberg a ce regard d'enfant parce que au fond, il faut garder, je pense... pour appréhender un tant soit peu le réel qui nous entoure, ce réel-là, je crois qu'il faut garder ce regard d'enfant, c'est-à-dire une capacité d'émerveillement intacte.
Mais c'est plus que ça, c'est pas n'importe quel âge, quel regard d'enfant, c'est l'âge du regard de l'enfant de 10 ans. Elliot, dans E.T., il a 10 ans.
Ah, absolument.
Les personnages de Disclosure Day ont une épiphanie, en quelque sorte, à l'âge de 10 ans. Mm-hmm. Et alors, bon, où je voulais en venir, c'est que pour incarner Claude Lacombe, le scientifique français inspiré par l'astrophysicien Jacques Vallée, il a choisi donc François Truffaut, qui était un choix non négociable, apparemment.
Ouais, Spielberg était à l'époque et toujours un grand admirateur de l'œuvre de Truffaut. Quoi. Il voulait vraiment, il rêvait de tourner avec Truffaut en tant qu'acteur cette fois. Et il tremblait parce qu'il pensait que Truffaut n'allait pas accepter. Et puis, à l'arrivée, Truffaut a accepté. Donc, ça a été pour lui un cadeau magnifique.
Et donc, il a bénéficié de la préparation et du regard d'un ufologue, comme toi peut-être, le docteur Alan Hynek. Alors j'aimerais bien, qui est devenu donc conseiller technique sur le film et figurant sur le plateau, j'aimerais bien que tu nous racontes cette anecdote autour de Alan Hynek. Qui est Alan Hynek?
Alors Alan Hynek est un personnage absolument incontournable, grand scientifique, qui a été engagé par l'armée américaine dès 1942 pour faire ce qu'on appelait du debunking. Le debunking, c'est-à-dire l'armée ne voulait absolument pas qu'on parle de ces observations, de ces apparitions étranges, parce que dès 1942, l'armée est dans un état de panique totale. Ça, c'est totalement sourcé. Hein. J'ai des tas de documents officiels qui sont déclassifiés depuis longtemps, qui le prouvent. Et ils ont engagé donc, à l'époque, ce jeune scientifique qui était Alan Hynek. Son boulot, c'était en fait de se rendre sur les lieux d'observation et de trouver une explication tout à fait rationnelle, hein, de ranger ça sous le tapis, c'est-à-dire que des gens avaient vu des choses étranges et ils disaient « Non, ne faites pas, vous avez vu, c'est soit Vénus, non, vous savez, c'est soit la Lune, non, oh là là, c'est un vol d'oiseau ». Et puis, il menait ça tambour battant durant de longues années, jusqu'au jour où, à Exeter, en fait, beaucoup de témoins avaient aperçu des choses dans le ciel, et là, il s'est un peu trouvé à court, hein, d'explication, et il a dit, ce que vous avez vu, c'est du gaz des marais, c'est-à-dire que dans le marais, les végétaux, en fait, finissent par émettre du méthane ou un certain gaz qui parfois fait des flammèches, c'est ce que vous avez vu. Mais il était face à une vingtaine de témoins qui avaient vu vraiment un objet métallique, qu'ils ont dessiné, etc. Et suite à ça, ça a été un peu un tollé général. Et ça a été un choc, en fait, pour Hynek, qui, après, s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas extrêmement éthique. Et il a complètement tourné kazakh, il a quitté l'armée américaine, et il a créé, il est le père de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ufologie scientifique. C'est lui le papa des X-Files, c'est-à-dire qu'il a créé le premier groupe, hein, civil d'observation et d'explication et d'enquête sur ces ovnis. Et voilà, donc automatiquement, Spielberg, qui connaît très très bien le sujet, qui le connaît par cœur, s'est tourné vers Hynek, parce qu'il savait que c'était lui qui maîtrisait un peu de façon scientifique et de façon sérieuse le sujet.
Alors, on va pas passer toute l'émission autour de Spielberg, mais pourtant, ça m'aurait bien plu. Néanmoins, pour faire la transition, j'ai remarqué que l'actrice qui est, en quelque sorte, messagère par le biais, alors ça, je spoilerai, hein, parce que c'est dès le départ, par le biais des animaux. Alors, à se demander si les animaux sont des extraterrestres, enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, l'actrice Emily Blunt, qui est magistrale dans ce film, enfin une actrice par ailleurs que moi j'adore, je trouve qu'elle a un air très 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 proche de Marie Laforêt.
Ah.
Alors voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'a bleu. C'est peut-être parce qu'on a préparé déjà l'émission, on a beaucoup discuté de Marie Laforêt, mais vraiment Emily Blunt et Marie Laforêt, elles ont un regard, une manière de parler, des mimiques que j'ai trouvé très proches. Or, Marie Laforêt.
J'ai un peu du mal à parler de Marie parce que j'ai très bien connu Marie. Marie, c'était une amie. Et le regard de Marie est unique. Vraiment, les yeux de Marie Laforêt, c'était quelque chose d'absolument sensé. Mais j'adore Emily Blunt, qui est une magnifique actrice, vraiment.
Eh bien, avant de parler de Marie Laforêt et de ton parcours, je propose d'écouter un titre de Marie Laforêt, L'homme de l'espace. Et on se retrouve juste après, cher Egon.
Avec plaisir.
Mais d'où viens-tu, d'en haut, d'en face, d'en haut, d'en face? Je le regarde et je pense quand il dort ou dit tant. Mais dis-donc toi, mais d'où viens-tu? D'en haut, d'en face, d'en haut ou d'en face. D'une fusée qui trace des sillages de strass.
Mais dis donc toi, cher Egon Krajel, Krajel, oui. Hein, c'est ça, Krajel.
Krajel,
mais voilà. Dis donc toi, mais d'où viens-tu, d'en haut, d'en face, d'une fusée qui trace des sillages de strass. Mais je trouve que ça te correspond bien comme parole parce que tu nous proposes un cinquième livre sur les ovnis et un livre pailleté de strass, de pop culture, d'artistes.
Tout à fait.
Et d'où viens-tu? Parce qu'au départ, tu voulais, bah tiens, on en revient à Spielberg, désolé, mais tu voulais être dompteur de tigres.
C'est vrai, quand j'étais enfant.
Alors, remets-toi bien en face de ton micro.
Là,
ça grésille un peu.
De là.
Bah vas-y, on va essayer.
Allô.
Oui.
Tu m'entends bien?
Ouais, ça va.
Quand j'étais enfant, j'avais une passion absolue pour les fauves, pour les grands fauves. Ça ne m'a jamais arrêté, hein, parce que je suis passionné par les grands fauves. Et je m'étais dit que j'avais envie de dédier ma vie à ces animaux fantastiques et magnifiques. Et je m'étais dit que bon, la façon la plus simple, ça serait d'être dompteur de tigres. Puis j'ai réalisé que c'était un peu compliqué parce que ils sont équipés d'un matériel lacératoire assez conséquent. Hein. Ils ont des sacrées griffes et des sacrés crocs. Et puis très vite, j'ai réalisé que je les préférais en liberté. Je voulais pas les voir en cage. Je voulais les voir en cage. Voir des fauves en cage, ça me brise le cœur tout le temps. Donc voilà, c'était mon début. Mais j'ai toujours une immense passion, tu sais, pour les fauves et dès qu'il y a un reportage sur les fauves, et j'ai aussi particulièrement une grande passion pour les jaguars, voilà.
Très bien.
Tu sors à tout.
Bah oui, mais c'est passionnant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, tu es né dans le sud, comme moi, à Toulon? Non, enfin, on n'est pas dans le sud.
Je suis né dans le sud, au bord de la Méditerranée, cette belle mer bleue.
Oui.
J'ai un cœur provençal, totalement provençal. Voilà, j'ai grandi au milieu des cigales, au milieu de la garrigue, et puis de ce bel accent que j'ai perdu, que j'avais. Et la Provence, je pense qu'on vient tous d'un pays et je le ressens profondément. Voilà, je me sens profondément provençal.
Alors, tu as donc un père militaire, tu as passé ta vie à écouter ton père militaire et ses amis ufologues, ou je ne sais pas s'ils n'étaient pas ufologues.
Papa colonel, et mon papa organisait fois.
Ah, ça coupe un peu parfois. Moi, je ne peux rien faire.
Je vais essayer de bouger, je vais aller sur mon balcon.
Ah, parce que tout à l'heure, on t'entendait vraiment mieux.
Là, je suis sur mon balcon. Est-ce que tu m'entends bien?
Ah ouais, bien.
Parce que là,
Rapproche-toi des extraterrestres. C'était ça, il fallait juste y penser.
Voilà. Et mon papa avait coutume d'organiser des dîners avec des amis pilotes. Et c'était très ennuyeux pour l'enfant que j'étais, parce que ça parlait d'armement, ça parlait de la guerre, ça parlait de l'Algérie, de l'Indochine. C'était d'un ennui putride pour l'enfant que j'étais. Mais je pense que quand la chair était bonne, et que le vin peut-être pisse aux confidences, ses amis pilotes racontaient à mon papa des expériences folles qu'ils avaient vécues. Ils avaient croisé dans leur couloir de vol des objets absolument insensés. Et Isabelle, je peux te dire que c'était des hommes extrêmement pragmatiques, ces pilotes que j'ai beaucoup aimés. C'était des hommes très érudits, très pragmatiques. Et mon papa rigolait pas. Mon papa avait vraiment les pieds sur terre, tu sais, les colonels, c'est. Et on parlait à la maison de sujets de façon extrêmement sérieuse. J'avais compris que le sujet était un peu compliqué parce que ces pilotes ne pouvaient pas en référer à leur hiérarchie. Ils pouvaient en parler à mon papa, mais ils n'en parlaient pas à leur hiérarchie parce que ils risquaient de perdre à la fois leur licence de vol et puis de passer à nouveau des évaluations psychologiques, ce qui aurait été très dommageable pour leur carrière. Voilà. Et puis, autant à la maison, on parlait du sujet de façon très décontractée et très sérieuse. Dès que je quittais le cocon familial et que j'en parlais, par exemple, aux parents de mes amis, on m'en regardait bizarrement en disant « Le psy, oulala, il va pas bien, la tête lui tourne, il a un vrai problème ». Et j'avais compris que le sujet était un petit peu névralgique, qu'on ne pouvait pas l'évoquer face à tout le monde. J'avais compris ça et ça m'a suivi longtemps parce que cette passion des ovnis, je l'ai depuis que je suis enfant, vraiment, et cet intérêt. Et je peux te dire que je l'ai vécu, j'ai vécu ce malaise, ces rires immédiat quand on abordait le sujet toute ma vie. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, ça se calme un peu. Voilà.
Alors, bon, comme tu as compris assez vite qu'on ne pouvait pas parler des ovnis et des extraterrestres avec tout le monde, tu décides d'écrire « OVNI, enquête sur un secret d'État »,« OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas »,« OVNI, sommes-nous en danger, le livre noir de l'ufologie »,« OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone », et enfin, cette année, OVNI et pop culture, dans lequel, on va poursuivre sur ces 5 livres, mais dans lequel, donc, tu nous parles de ta rencontre assez extraordinaire avec Marie Laforêt, qui, donc, a chanté ce titre sur l'homme de l'espace.
Oui, Marie quand j'ai rencontré Marie, en fait, il existait peu de son répertoire disponible en CD. Donc je lui avais proposé, je lui avais dit « Marie, il faut absolument que ça soit disponible en CD ». Donc j'ai participé à la sortie d'abord d'un premier coffret de 80 chansons avec Marie, et puis après d'un très beau CD de live, parce que Marie, entre 69 et 72, a interprété vraiment un répertoire, ce qu'on appelait de world music à l'époque, de folklore, absolument magnifique, absolument somptueux. Et on est devenus amis. Et Marie me disait, j'ai enregistré un disque, mais dont je suis pas très satisfaite, mais il n'est pas sorti, tant mieux, parce que j'avais des doutes, les bandes sont perdues, et puis voilà. Mais elle ça la faisait rire, parce qu'elle me disait, elle savait que je m'intéressais beaucoup au sujet des ovnis. Elle me disait, mais est-ce que tu sais que j'ai chanté une chanson sur un extraterrestre? Et puis, peu après le décès de Marie nous a quittés, et un ami qui s'appelle Johan Masson a retrouvé les bandes de cet album, c'est de façon miraculeuse. Et effectivement, il y a cette chanson qui s'appelle « L'homme de l'espace ». Alors je l'ai écouté, j'ai eu l'impression que Marie me faisait aussi à moi un petit clin d'œil, et c'est toujours jubilatoire d'entendre Marie chanter. Voilà. Et je ne sais pas si tu as noté le texte de la chanson, d'ailleurs on peut faire un parallèle avec ce qu'on disait au début, parce qu'à un moment donné, cet homme de l'espace qui se promène au plafond, qui arrive dans une fusée tout en strass, à un moment donné, prend du vin de sa main et lui dit « Ceci est ma vie, ceci est mon corps ». Donc ouais. Il y a aussi une sorte de clin d'œil christique comme ça qui passe dans cette chanson très drôle. Voilà.
Bah, je crois que les ovnis et le Christ, ils sont main dans la main, quoi.
Il y a quelque chose de, on pourrait dire, de géographique, que je disais au début. Il y a, au niveau de la localisation, il y a quelque chose qui est au-delà de notre planète, au-delà de notre atmosphère. Enfin, c'est lui qui le dit.
Et puis, de toute façon, pour les voir, pour les voir, bon, déjà, il faut... Ah, pardon.
Il a aussi cette phrase très étonnante. À un moment donné, il dit « Il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon père.
Ben, »
C'est-à-dire,
voilà.
C'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il y a sans doute plusieurs mondes dans la maison de son père. Il y a plusieurs maisons, donc voilà.
Mais c'est la dimension spirituelle que tous les humains n'ont pas forcément, ou de manière tellement variée que, en fait, bon, je ne sais pas s'il y a une manière, mais de toute manière, pour y croire, bah, faut les voir, ça c'est sûr. Pour les voir, du moins, faut les croire, faut y croire, et faut surtout regarder en l'air. Faut regarder vers le ciel.
Je ne sais pas s'il faut y croire. Je ne sais pas s'il faut y croire. J'ai peur que la croyance soit un véritable handicap. Moi, je dis tout le temps, parce que souvent, on vient me voir quand je fais des conférences, on vient me voir en me disant, mais enfin, vous parlez tout le temps d'OVNI, etc. Est-ce que vous y croyez? Moi, je réponds toujours la même chose. Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que nous ne sommes pas en religion, là. On n'est pas dans le domaine de la foi. On n'est ni dans une église, ni dans une synagogue, ni dans un temple, ni dans une mosquée.
Il faut avoir une sensibilité, quoi. Être ouvert, ou je sais pas, enfin, c'est toujours un peu compliqué.
Tu sais, Isabelle, beaucoup de témoins sont ce que moi j'appelle des témoins du hasard. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées nez à nez avec ce phénomène. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils ne cherchaient pas. La chronique ophiologique est profuse de ce genre de cas. Des gens qui, des chasseurs qui étaient dans la campagne, des gens en voiture. Il y a énormément de cas comme ça où les choses se sont passées. C'est peut-être que c'est le hasard, mais peut-être que ce n'est pas le hasard non plus.
Ce phénomène
est protéiforme et très complexe. Voilà, c'est pas simplement quelque chose. Plus j'avance et plus je me rends compte à quel point il est complexe.
Néanmoins, les artistes, puisque c'est ce livre-là, ce cinquième livre que tu as écrit, parle de pop culture et d'artistes en particulier, mais pas que, parce que tu parles aussi de politique, d'astrologues, d'astronautes. Les artistes y croient, quoi. Dans tous les témoignages, ça revient.
Il y a un témoignage intéressant, justement, qui peut illustrer ce que je disais, c'est John Lennon. John Lennon, qui est mon Beatles préféré, que j'adore. L'un de ses preneurs de son, en fait, avait vu un ovni, avait raconté ça à John et à Paul McCartney. Et Paul l'avait écouté attentivement et John s'était moqué un peu de lui en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces drôles d'histoires ?» Et puis, des années après, quand John s'est installé à New York, un soir d'août, il faisait très très chaud, c'est extrêmement chaud comme à l'heure actuelle, et il est sorti, il était au 17e étage, il n'avait pas de vis-à-vis, il est sorti tout nu sur sa terrasse, et d'un seul coup il a poussé des hurlements parce que il était face à un ovni, et ça l'a marqué profondément, ça l'a bouleversé profondément. Après il en a parlé, il en a énormément parlé, mais j'ai l'impression qu'avant il était assez sceptique.
Alors il y en a une autre dans ton livre qui, alors elle espérait les voir depuis longtemps, et elle les a vus. Alors, elle les décrit un peu comme la majorité des artistes qui en parlent. Je l'ai dit tout à l'heure, vitesse foudroyante, beaucoup de lumière. Enfin, une apparence en tout cas qui interroge. Voilà. C'est Nina Hagen.
Ah, Nina, oui. Nina était fascinée par le sujet depuis toujours. Et Nina voulait absolument, elle disait qu'elle voulait voir un jour un ovni. C'est arrivé quand elle était enceinte, elle était à Malibu, à Los Angeles, et elle m'a raconté que un soir elle était partie se coucher et d'un seul coup elle s'est réveillée en nuit, si quelque chose là à l'extérieur, en tout cas il y a quelque chose.
Alors ça coupe un peu là à nouveau.
Pourtant, je ne bouge pas.
Ah oui, bon. Alors là, c'est Nina Hagen qui... Alors, on va écouter Nina Hagen, peut-être pas en entier, parce que le titre fait 5 minutes, et on se reprend juste après, pour laisser à ton téléphone le temps de se recharger.
Absolument. À tout à l'heure.
UFOs upon
and you are not alone. Remember it's
Cher Egon,
oui.
Dans ton livre, bon, chers auditeurs, je suis désolée, mais une heure, ça passe très vite. Et comme le sujet est passionnant et que notre invité est passionné, c'est vrai que je suis curieuse de l'entendre à nouveau. Alors, la personne qui préface ton livre, Jean-Claude Bourret, que je regardais quand j'étais petite, hein, sur la 5, écrit en préface « La vérité sur les ovnis sera-t-elle artistique ?» Enfin, il pose la question, sera-t-elle artistique ? Les artistes sont-ils plus visionnaires ou sont-ils la clé de connexion avec les ovnis, finalement ? Sur la couverture, en première de couverture, évidemment, c'est David Bowie qu'on voit. Mm-hmm. Alors, mm-hmm. David Bowie, toute sa vie est traversée par ce sujet. Toutes ses chansons, toute sa vie, sa mort même.
Bah, de toute façon, je pense que Bowie, c'est notre plus bel extraterrestre. C'est vraiment l'extraterrestre du rock. Bowie a toujours été fasciné par le sujet. Bowie a chanté absolument toute sa vie. Le premier chanteur, un petit peu en 69, un petit peu célèbre, c'est Space Oddity, qui raconte l'histoire de Major Tom qui va se perdre dans l'espace. Et Major Tom, d'ailleurs, va traverser toute sa carrière. Puisque dans son dernier opus qui s'appelle Black Star, la vidéo qui illustre ce titre magnifique, on voit une jeune extraterrestre sur une planète qui trouve un cosmonaute, elle soulève son casque, il y a un crâne, et c'est Major Tom en fait. Et donc Bowie a bouclé la boucle de toute façon, et puis Bowie n'a fait que chanter ça. Life on Mars, y a-t-il de la vie sur Mars ? L'album Ziggy Stardust, c'est l'histoire d'un messie extraterrestre qui vient nous voir. La chanson Starman, il y a un homme tout là-haut dans le ciel qui voudrait venir nous rejoindre, mais il a peur de exploser nos esprits, l'homme des étoiles, etc. Bowie n'a chanté que ça.
Alors,
et il a incarné au cinéma le plus bel extraterrestre qui soit dans le film L'homme qui venait d'ailleurs, tourné par Nicolas Roeg.
C'est vrai que c'est un... Ce film est un ovni. Avec un ovni.
Ce film est un petit bijou, vraiment. Et je suis heureux qu'on le redécouvre à l'heure actuelle. Les éditions Tachène ont, par exemple, viennent d'éditer un livre absolument sur ce film avec un grand, grand nombre de photos. Il y a une BD qui est sortie sur le livre. Et je crois que quand il est sorti en 76, une partie du public est passée un peu à côté parce que c'était un peu étrange. Et
oui,
je crois qu'on le redécouvre aujourd'hui. Nicolas Roeg a été très pionnier concernant le sujet. Vraiment. Il faut vraiment voir ce film, qui est d'une beauté formelle absolue, qui est un conte un peu désabusé aussi sur notre société, qui refuse l'altérité radicale, hein, qui refuse que l'autre ne nous ressemble pas. C'est très humain. Et puis le film aborde le sujet des ovnis de façon extrêmement sérieuse.
Alors, avant sa mort, Bowie, donc j'ai lu ça dans ton livre, écrit... Robert Fox, Robert, je ne suis pas du tout un être humain, mais chut,
Oui, oui. Alors, il faut savoir que juste avant de mourir aussi, donc Bowie avait tourné dans ce film qui s'appelle L'homme qui me naît d'ailleurs, et en 76, et juste avant de mourir, quelques mois avant de nous quitter, il a écrit une comédie musicale qui mettait à nouveau en scène l'extraterrestre qu'il avait incarné dans le film de Nicolas Roeg, cet extraterrestre qui s'appelle Thomas Strom Newton. Et Bowie a offert au metteur en scène de cette comédie musicale un livre de Walter Savis qui s'appelait L'homme qui naît d'ailleurs, parce que le film de Nicolas Roeg était inspiré d'un livre de Walter Savis. Et en première page, il lui a écrit ça. Il lui a écrit, tu sais, je ne suis pas de ce monde, mais chut.
Voilà. Mais chut.
Ah, Bowie en jouait beaucoup, de toute façon, avec le physique qu'il avait, ce regard asymétrique, oui. Comme ça.
Androgyne.
Bowie a beaucoup joué. Et d'ailleurs
il s'est beaucoup transformé au fur et à mesure
L'anecdote que j'ai beaucoup aimée, c'est quand Nicolas Roeg avait décidé d'adapter le livre de Walter Savis, il cherchait un acteur pour jouer cet extraterrestre, mais il avait beaucoup de mal. Il avait pensé à Peter O'Toole. Et puis il est tombé sur un documentaire qui présentait Bowie aux États-Unis en 74. Bowie faisait la promotion de son album Diamond Dogs. Et on voyait Bowie à l'arrière d'une limousine comme ça, très pâle, cheveux orange. Et Bowie était en train de boire du lait dans une brique, comme ça. Et Bowie s'arrête comme ça et puis dit « Ouh là là, il y a un corps étranger dans mon lait. Corps étranger, c'est comme ça que je me sens, en fait. » Et là, Nicolas Roeg s'est dit « Waouh, j'ai trouvé mon interprète. » Et comme il avait raison, parce que Bowie est absolument étonnant dans L'homme qui venait d'ailleurs. On ne pouvait pas rêver de meilleur extraterrestre.
Mais il avait trouvé sa place et la manière de l'exprimer. D'ailleurs, ça, c'est un sujet aussi du film de Spielberg. On va reboucler, finalement. Où il est question de trouver sa place. À quel moment on sait qu'on est à la bonne place ? Bon, eh bien, quand une connexion spirituelle s'opère, peut-être. En tout cas, dans ton livre, donc, on a abordé pas mal d'artistes. Il y a Michel Morgan, Patti Smith, William Burroughs, Kim Wilde, Georges Méliès pour le cinéma, les Pink Floyd, Nicoletta, j'en cite quelques-uns, mais Elvis, Jimi Hendrix, Cassius Clay, Mohamed Ali, Dalida,
François Hardy. Barry Cole qui a fait une observation absolument incroyable. Nicoletta qui m'a raconté, qui est une artiste adorable, qui m'a raconté pendant plus d'une heure son observation. Oui, il y a beaucoup d'artistes et certains qu'on n'attend pas. Au niveau de la littérature, Jean Cocteau était passionné par le sujet. Jean Cocteau ne lisait que le journal en 54 que si le journal parlait de soucoupes volantes, par exemple. Et puis un écrivain japonais que j'aime infiniment qui s'appelle Mishima. Oui. Mishima était tellement fasciné par les ovnis qu'il a écrit un roman, ce qu'on ne sait pas. Il a écrit un roman qui s'appelle La Belle Étoile et qui est un roman traversé de soucoupes volantes.
Qui a l'apparence un peu, qui se rapproche un peu de David Bowie, un peu androgyne comme ça, très mystérieuse.
Mishima, c'était un personnage absolument étonnant. Ça a été un des écrivains les plus célèbres au Japon, mais qui a eu une fin qui a choqué la planète, puisque il avait pris en otage un ministre de la Défense japonaise et parce qu'il voulait que les troupes américaines quittent le Japon. Il était très nationaliste en fait, il voulait retrouver la gloire de l'empereur et il avait dit que s'il n'obtenait pas si on ne l'écoutait pas, il se sacrifierait, c'est ce qu'il a fait, il est mort dans un seppuku traditionnel, c'est-à-dire qu'il s'est ouvert le ventre devant le ministre qui était bâillonné sur sa chaise, enfin bon, et la presse, enfin les médias ont rapporté ça, c'était un choc, parce que c'était quelqu'un de très célèbre,
oui.
comme si nous on avait un immense écrivain qui était reçu avec tous les honneurs et qui, on l'apprend, qu'il fasse une chose pareille. Personnage absolument incontournable, Mishima, qui a écrit des romans absolument somptueux.
Oui.
Et que Bowie adorait Mishima. D'ailleurs, Bowie peignait beaucoup et une de ses premières toiles est un portrait de Mishima.
Ah d'accord, ça je l'ignorais. Mais Bowie, de toute façon, je crois qu'on peut le retrouver sur tous les sujets. Bowie, c'est la bande-son d'une vie.
Alors, c'est un passeur absolument fabuleux. C'est-à-dire que lorsqu'on on passe d'un monde à l'autre avec une aisance en moi. Puis surtout, Bowie nous a enseigné l'encyclopédisme, c'est-à-dire de ne pas se borner à une chose, au contraire d'être très éclectique, d'être curieux et de toucher à tout. Et grâce lui soit rendue.
Alors, dans le Télégramme, il y a quelques jours, dimanche 14 juin, donc dimanche dernier, il y avait une interview de Luc Dini, le président de Sigma 2, une commission de l'Association aéronautique et astronautique de France, qui expliquait que 4% des cas concernant les ovnis restent inexpliqués après analyse, même s'il dit qu'on peut constater des modifications biologiques ou chimiques sur la végétation, des trajectoires impossibles, enfin des accélérations inhabituelles et des effets électromagnétiques avec l'absence de propulsion visible. Enfin, il y a quelques signes quand même qui continuent à interroger.
D'autant plus que Luc Dini, que je connais, a une approche absolument rigoureuse et très scientifique du sujet. Luc fait un travail. Je suis pétri d'admiration pour le travail que fait Luc vraiment. Donc,
l'interview.
On n'est pas face à des rigolos. Vraiment, c'est quelqu'un de tout à fait digne de foi.
Il est interviewé sur le livre qu'il vient de publier aux éditions Michel Lafon, « OVNI, lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone », et c'est là que je voulais en terminer. Il explique, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie d'en savoir davantage, il explique il raconte un témoignage survenu au Conquet dans la région de Brest en 1975. Par un ancien pilote de l'aéronaval devenu par la suite contre-amiral et pilote de Rafale Marine, qui a donc réalisé une observation au large du Conquet.
Tu vois, ça tend un pont vers ce que je te raconte. Moi, ce sont des pilotes de mon papa colonel qui m'ont ouvert cet ailleurs-là et qui m'ont fait plonger dans ce dossier, vraiment.
Alors, il parle.
Et lorsque les pilotes voient quelque chose, c'est très sérieux parce que ce sont des gens qui sont habilités à reconnaître absolument tout ce qui peut passer rapidement dans leur couloir de vol. Ce sont des gens très sérieux.
Bon, il parle après du GEPAN qui s'est créé et du JPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ici à Rennes. Et donc il parle, et c'est là que je voulais en terminer peut-être l'émission, le 8 mai, donc le Pentagone a déclassifié ses documents sur le sujet. Tu as jeté un œil, j'imagine,
bien sûr. Alors il n'y a pas que le 8 mai, le 8 mai c'était la première salve de déclassification, il y en a eu trois depuis, un grand nombre de vidéos, grand nombre de photos, et c'est absolument fascinant. J'ai passé des heures, j'ai tout téléchargé, j'ai tout sur mes disques durs, j'ai passé des heures à regarder tout ça, et c'est absolument incroyable. Et Spielberg, dans une interview récente, dès qu'il passait, lui, également des heures.
Alors, ça coupe encore un peu, là.
Nous sommes tous les mêmes.
On n'a pas entendu.
Comment ?
On n'a pas entendu là. Enfin, moi, j'ai pas entendu. En tout cas, les auditeurs, je ne sais pas.
Est-ce que tu m'entends là ?
Oui.
Je disais oui. J'ai absolument tout téléchargé parce qu'il y a eu trois salves en fait. Le 8 mai, c'était la première salve de déclassification, mais depuis, il y en a eu deux autres. Donc, on a vécu trois salves de déclassification, un grand nombre de vidéos qui étaient classées top secret, un grand nombre de photos et un grand nombre de rapports et de documents. Et aussi des documents audio, des interviews d'astronautes revenant de mission, etc. Et j'ai passé des heures et des heures à regarder ça avec gourmandise. Et ce que je te disais, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu dernièrement une interview de Spielberg qui disait avoir fait ça. Il a dit qu'il avait téléchargé tout ça, lui aussi, et qu'il passait des heures à regarder ça. Je me suis dit, nous sommes tous pareils, en fait, comme des enfants devant ce phénomène.
En tout cas, ce dont je me suis aperçu, c'est que... Alors, je ne sais pas, le parallèle est peut-être un peu étrange, mais c'est comme les guerres, en fait. La meilleure manière de documenter ce qui se passe pendant les guerres ou les génocides, ou, ce sujet sur les ovnis, les extraterrestres, c'est les témoignages. Et là, Luc Dini insiste justement beaucoup sur les témoignages qui restent une source d'information essentielle.
Mmh, tout à fait.
Et c'est ce que tu as, c'est ton parti pris aussi dans ce livre qui fait donc.
Absolument, absolument. J'ai un postulat, si tu veux. Il faut toujours poser un postulat quand on s'évertue d'examiner un sujet quel qu'il soit. Et mon postulat à moi, c'est que j'ai très tôt essayé de faire la différence entre la vérité et la réalité du phénomène. C'est-à-dire que la réalité du phénomène, elle est induite par les expériences sensibles, c'est-à-dire les témoins. Et c'est ce que je préfère. Et la vérité, philosophiquement, on sait que de toute façon, c'est juste un processus de pensée qu'il est toujours subjectif. Donc, je préfère me tourner vers les témoins. J'ai la chance d'être ami avec Jacques Vallée, dont on a parlé au début, incarné par François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Et il y a quelques jours, j'ai dîné avec Jacques Vallée qui m'a dit une phrase très belle et que j'ai notée. Jacques m'a dit, tu sais, mes véritables professeurs sont les témoins. Voilà. Et mes véritables professeurs sont les témoins. Et je peux dire la même chose. Mes véritables professeurs sont les témoins.
C'est très beau. Une belle phrase. Je la note également. Alors, Egon, je te remercie de cette heure que tu as consacrée aux auditeurs de Radio U, 101.1 FM Campus de Brest.
Merci. C'était avec grand plaisir, c'était avec grand, grand plaisir, vraiment.
Mais peut-être à la rentrée, on organisera une prochaine émission parce que le sujet est tellement vaste et visiblement ça évolue. On aura sans doute l'occasion de se reparler.
Isabelle, quand tu veux, vraiment.
Avec plaisir. Chers auditeurs, c'est fini pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 28 juin, à 21h, dans les élucubrations d'Hermeline. On parlera d'objets vintage et de pop culture avec Olivier Mével, qui, après le Minitel et le Nabastag, le lapin qui était le précurseur de la Wi-Fi, le Nabastag, on va parler ensemble de la machine inutile, la machine à son, puisque être utile ne sert à rien, selon Olivier Mével. L'émission est en écoute et en réécoute sur radio-u.org et en podcast, en streaming sur toutes les plateformes, sur YouTube. Et elle sera en ligne, cette émission sur les ovnis avec Egon Kragel sera en ligne dès demain. Alors avant de diffuser le jingle, je vais empiéter quelques secondes juste pour... Allez, un petit jingle. Le jingle de rencontre du troisième type. Et on enchaîne avec le jingle de l'émission. Bye bye, à dimanche prochain, merci. Au revoir Egon.
Au revoir.
Et fait une pause. L'ouverture doit se trouver sur la gauche.
Ils nous ont envoyé d'abord 4 croches, puis un groupe de 5 croches, et puis un groupe de 4 croches.
C'est bon. Presque toujours en dessous de 9000 angstrues. Arrivation, quel est le rayon radar?
Le seul élément que ces phrases ont en commun sont les sacs de dents
que quelqu'un enregistre tout ça.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Il cherche à nous enseigner un vocabulaire tonal élémentaire.
C'est notre premier jour de classe, messieurs.
Suivez tout ce que fait sa majesté. Collez à sa partition note par note.
Fréquence face à Charlie.
Sur une horloge de leurs signaux audio. Nous allons enregistrer le dialogue. Top.
Thank you.
les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.